Dans le psaume 36, il y a au verset 9, un verset qui résume bien ce que Dieu veut. Parce que vous savez, il y a ce que nous voulons, nous. Parce que nous, on veut des choses. On est sûr que ça correspondrait. Mais est-ce que quelqu'un ici peut dire, mais moi, je veux faire la volonté de Dieu. Est-ce que je veux faire ce que Dieu veut? Pas à 80%, à 100%. Dans le psaume 36 et dans toute la parole de Dieu, on voit ça de la Genèse à l'Apocalypse, cette pensée qui revient, qu'il y a un fleuve. Il y a un fleuve, on le chante des fois. Il est un fleuve coulant du cœur. Il y a un fleuve, ce n'est pas un fleuve d'eau physique, c'est un fleuve spirituel. Janson l'a bien rappelé à la fin des chants. Jésus, il est la vie. C'est la vie spirituelle. Au psaume 36, verset 9, « Il se rassasie de l'abondance de ta maison, tu les abreuves au torrent de tes délices. » C'est dit autrement, par exemple, dans le psaume 110, au verset 7, on pourrait prendre plein de psaumes, on pourrait faire une prédication toute entière avec des versets tirés de tous les textes de la Bible. Psaume 110, verset 7. Psaume 110, verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. Voyez ? C'est pourquoi il relève la tête. C'est beau ça, hein ? La marche, c'est pas toujours facile la marche. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Eh bien, un chrétien, il boit. S'il est léger, il ne boit pas. S'il est léger, quelqu'un qui est léger se caractérise à ça. Je l'ai dit de mille façons. Il va à l'église, mais il n'obéit pas à Dieu. C'est ça la légèreté. Je viens à l'église, je veux une église, je veux chanter, je veux prendre le pain et le vin, mais je n'obéis pas. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui vit ces deux versets que l'on vient de lire ? Il boit au torrent pendant la marche. La vie, c'est une marche. Je marche, j'avance, je chute, je ris, je pleure, je doute, j'avance. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors bien sûr, cette prédication s'adresse à ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? C'est Pierre qui a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, est-ce que vous avez déjà goûté que Dieu est bon? Si vous avez déjà goûté que Dieu est bon, eh bien écoutez bien ce que vous allez entendre. Ce fleuve, je bois au torrent, il les renouvelle, il est un fleuve. Je vous dis, on aurait pu prendre plein de textes, le temps ne nous le permet pas bien sûr. Mais qui ce matin veut vivre cette affaire plutôt que de continuer à vivre dans la légèreté? C'est pour ça qu'il y a tant d'échecs. Faut pas rêver, faut pas se leurrer, faut pas non plus se culpabiliser à outrance, mais il faut être sérieux. Il y a un fleuve. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle d'un fleuve. Il y a un fleuve dans lequel les chrétiens peuvent vraiment se plonger. Des fois, on chante « Plonge-moi dans ta rivière ». Je n'ai pas chanté parce que là, vraiment, ça ne va pas vous aider. « Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans les profondeurs de ton esprit. Hein ?» On va commencer la suite. « Inonde le désert de mon âme. » On le chante, on peut le chanter avec allegro, on peut le chanter avec ferveur, et puis c'est pareil. La légèreté nous interdit. Et les prophéties que vous avez entendues nous montrent qu'on peut vraiment passer à côté. Alors c'est vrai que le diable, il est fort. Vous savez, moi, je n'aime pas honorer et parler souvent du diable. Mais quand même, il faut en parler. C'est un voleur. Oui ou non? C'est un accusateur. On dit le diable, il est ici, là. Moi, je pense que le diable, il est souvent devant le trône. Puisqu'il est dit qu'il les accuse. L'accusateur, il se tient devant le trône. Comment ? Jour et nuit. Et il accuse les élus devant Dieu. C'est pour ça que Jésus est assis sur le trône dans son rôle de souverain sacrificateur. Et heureusement qu'il intercède jour et nuit pour vous et moi. Et quand il est écrit, parce que bon, il y a des versets comme ça, on n'y fait pas attention. Il les accuse jour et nuit. Il y a un combat, et on le sait d'ailleurs. L'accusation, la culpabilité. Je parle de la fausse culpabilité. Cette culpabilité qui revient tout le temps. On a demandé pardon, mais on revient toujours sur un truc. Si on a demandé pardon, Dieu nous a pardonné. Mais il y a des gens, ils ne s'en sortent jamais. Ça fait qu'après, ça joue dans leur relation. Ils arrivent à la maison, ils sont en colère. Et voilà, et ça dégénère. Tout ça, parce que on est léger. Quelqu'un qui est profond, il va passer ces choses. Il va boire au torrent et il va relever la tête. Alors, c'est vrai que le diable, c'est un... Alors, on pourrait citer les noms que Jésus utilise pour parler du diable, l'accusateur, le voleur et le menteur. Vous savez que Satan est le père du mensonge. Et je vous assure qu'il excelle dans l'art de nous tromper. Mais voilà, le Seigneur a dit qu'il était venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Si vous restez dans la légèreté, c'est-à-dire que vous entendez, vous le savez, je ne suis pas toujours inspiré, ça j'en suis conscient, mais même, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est bien quand la parole, c'est la pensée de Dieu, mais on le sait, on sait ce qu'on a à faire, on a tous la même Bible, on peut lire et dire, tiens, ça, je devrais le faire, je ne le fais pas. L'autre jour, je vous ai exhorté à vous occuper de vos enfants, les hommes, l'avez-vous fait? Peut-être que vous avez dit, non, je n'ai pas le temps. La légèreté, c'est ça. Parce que moi, je vais vous dire que ce que Dieu vous demande, vous avez le temps de le faire. Et si vous en êtes arrivé à ce stade où vous n'avez pas le temps de prier, vous n'avez pas le temps de lire, vous n'avez pas le temps de servir, c'est que vous êtes tombé dans un piège. Parce que ce que Dieu vous demande, vous avez le temps de le faire. Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se voit en train de se tenir devant Dieu et de lui dire, parce qu'à moi, ça, à moi vous me le dites, ça change rien. Est-ce que vous voyez devant Dieu en train de dire, tu sais, tu m'avais appelé, mais je n'avais pas le temps. Est-ce que quelqu'un pourra se présenter comme ça? Est-ce que ça tient debout? Mais c'est ce que certains parmi vous vous dites. Ça s'appelle la légèreté. Alors il y a une solution, on va la voir. Ce matin, le titre de ma prédication, c'est « Réapprendre quatre choses ». Les réapprendre, ou les apprendre, si vous découvrez l'Évangile, si vous venez pour les premières fois, si vous n'êtes pas encore baptisé, peut-être, je ne sais pas, mais vous devez les apprendre, ces choses, et les garder. Mais nous, les chrétiens qui avons avancé tant bien que mal, peut-être il faut que nous les réapprenions. Vous savez que Jésus a donné sa vie au calvaire, vous le savez. Mais l'apôtre Paul dit aux Romains que si Dieu nous a donné son Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce qui est la nôtre? Il nous a donné son Fils. Est-ce que ça aurait suffi que Dieu nous donne son Fils pour le pardon de nos péchés, après tout? Est-ce que ça aurait suffi? Je sais que je ne suis pas bien en ce moment. J'ai l'impression que vous ne me répondez pas. Alors, je vous pose une question. Est-ce que ça aurait suffi que le Seigneur nous donne son Fils au calvaire? Point, c'est tout. Oui? Ben, est-ce que ça n'aurait pas été déjà merveilleux? Moi, je trouve que ça aurait été très, très bien. Mais en plus, il est écrit que Dieu, qui nous a donné son Fils, nous donne toutes choses avec lui. Alors, la légèreté, c'est vrai qu'il y a des chrétiens légers, ils ne le reconnaissent pas bien sûr, mais justement c'est la première chose à réapprendre, l'humilité. Alors je vais vous parler de Naaman, on ne va pas lire les textes, à moins que je juge que ce soit utile. Naaman, c'est 2 Rois chapitre 5, c'est un général de l'armée syrienne, je vous résume l'affaire. C'est des choses pathétiques dans la Bible, c'est l'ennemi d'Israël qui a mis une tannée à Israël, parce que Israël avait désobéi. Cet homme, qui devait être l'ennemi juré des Juifs, apprend un jour qu'il a le cancer. Enfin, qu'il a le cancer, qu'il a la lèpre. Il a la lèpre, il s'en rend compte, et puis bon, il a dû certainement être... C'était un homme très honoré, très considéré, c'était la deuxième personne du pays. Et voilà qu'il avait amené captive une petite servante, une toute petite, une jeune fille qui avait 10 ans, 12 ans, je ne sais pas. Et cette fille, vous voyez, comme elle était dans la paix, elle n'était pas dans l'amertume, elle dit à sa maîtresse, mais tu sais, si ton maître, il allait en Israël, tu dis, il y a un prophète qui a le pouvoir de la part du Seigneur de guérir. Et cet homme, il va faire la démarche. Alors, il va faire à sa façon, il va faire à sa guise, etc. Il va faire tout un plan. C'est le général en chef de l'armée, etc. Et ça ne va pas du tout se passer comme il veut. Je ne sais pas comment les choses sont en train de se passer pour vous. Peut-être que ça ne se passe pas comme vous l'avez décidé. Vous allez me dire, mais moi je suis peut-être pas général. Mais vous savez, des petits roitelets, il y en a. Des gens qui se prennent pour plus qu'ils ne sont. Je ne sais pas ce que vous êtes, ce n'est pas important. Que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, ça n'a pas d'importance. Vous croyez qu'au jour du jugement, c'est ça qui va rester? Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous ayez des talents ou que vous n'en ayez pas, je vais vous dire, ce n'est pas important. Ce général, bien sûr, lui, il avait dit, il faut que ça se passe comme ça, j'irai voir le prophète, il agitera ses mains. Il avait tout programmé dans sa tête. Et quand le serviteur du prophète va aller le trouver, il va lui dire, écoute, voilà ce qu'on te demande. Tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Voilà, il s'est mis en colère. Non, mais n'importe quoi, il dit. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi, je viens de... Il était de Syrie. Il était de Syrie, moi, à côté de Damas, il y a l'Albana, il y a le Parpar. Vous connaissez l'histoire. Et les fleuves, en plus, ils sont plus propres que le Jourdain. Alors, en plus, non, mais franchement, n'importe quoi. Me plonger 7 fois dans le Jourdain, n'importe quoi. Et il s'en va, furieux. Il a failli passer à côté. Et je vais vous dire, que de fois on est passé à côté. Cette histoire, elle n'est pas là dans la Bible pour épiloguer. Cette histoire, elle est là dans la Bible pour nous rappeler qu'on a intérêt à écouter. Et heureusement qu'il avait des amis. La prophétie disait qu'on écoute les conseils, on peut écouter les conseils du monde. Et heureusement qu'il y a des gens à côté de nous. C'est pour ça que c'est important d'être dans l'Église. Les gens qui ont quitté l'Église, alors de certains en plus, c'est compliqué ça, c'est compliqué. Mais je pense que l'Église, c'est le Seigneur qui l'a bâti. On a besoin de l'Église. Et heureusement qu'il était parti avec ses officiers, enfin ses serviteurs, il avait tout son staff. Et il y en a un qui lui dit, mais écoute, patron. S'il t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Il avait pris de l'argent, des millions. Mais s'il t'avait demandé un truc de difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Et ça l'a remis en question. Peut-être que si on vous demandait quelque chose de difficile, vous le feriez. Peut-être si quelqu'un est malade parmi nous, on lui dit, écoute, moi je vais te dire un truc. Tu sais, va de Toulouse à Paris à pied et Dieu te va te guérir. Il y en a qui le feraient. Oui ou non? Est-ce que j'exagère? Non, il y en a qui le feraient. Mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, maître. Alors fais-le. Me plonger 7 fois dans le Jourdain. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous chrétiens? Parce que quand même, ce fleuve, il n'y a pas à faire. Moi, je vous dis qu'il y a un fleuve et que Dieu veut que vous vous jetiez dans ce fleuve. Et s'il y a des gens qui vous disent, si vous commencez à faire à votre façon, à votre guise, plonge-toi. Qu'est-ce que ça va te coûter? Mais mon frère, depuis quand ne nous sommes-nous pas plongés dans la parole? Ah, mais j'ai pas le temps, monsieur Gou, moi je bosse. D'ailleurs, le soir, je suis crevé, j'en peux plus. Ah oui? Vous croyez que c'est bon, ça, devant Dieu? Tiens, mais c'est bizarre, j'ai 2 heures pour regarder un film. J'ai 2 heures, j'ai même 4 heures pour en regarder 2. J'ai pas 1/2 heure pour me plonger le nombre de fois qu'il faut jusqu'à ce que je sois guéri. Ça s'appelle réapprendre l'humilité. Qui a besoin parmi nous de réapprendre l'humilité, de réécouter les conseils du Seigneur? Il faut que je me plonge dans ta parole. Depuis quand vous ne l'avez pas lu? Ou peut-être vous l'avez lu, mais vous l'avez lu comme l'apôtre Jacques dit, vous l'avez lu et de suite vous avez oublié. Mais qui c'est qui aura plongé ses regards dans la loi de la liberté? Qui c'est qui aura lu jusqu'à ce qu'une parole pénètre votre âme? Vous croyez que Dieu peut parler encore? Comme je le disais tout à l'heure, vous croyez que... Non mais, vous pouvez dire ça à votre femme, vous pouvez dire ça à votre mari, mais tu ne me comprends pas, si tu étais à ma place, tu verrais avec les responsabilités que j'ai au boulot, et tu comprends, moi j'en ai marre, je suis crevé, voilà, et tu m'énerves. Ah oui? Et vous ne croyez pas qu'au travail, les gens... Ils ont besoin peut-être de voir un vrai chrétien. Vous ne croyez pas que Dieu vous a placé dans cette boîte, dans cette entreprise, dans cette affaire, dans cette université, dans ce salon de coiffure? Je ne sais rien. Vous croyez que Dieu vous y a placé pour vous ennuyer? Ou que vous croyez que Dieu vous y a placé pour que vous soyez un témoin? Mais peut-être que plutôt que de dire il faut, ça ne sert à rien, il faut. Peut-être, Seigneur, réapprends-moi l'humilité. Et vous savez, ce cantique, moi, il m'a beaucoup parlé. Il m'a parlé parce que c'est la prédication. Je rejette la légèreté. Vous savez, mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens souffrent. Mais c'est quand même écrit que le diable, si peu, il va essayer de séduire même les élus, dont des véritables chrétiens. Et il y a des chrétiens qui sont séduits par toutes sortes de fausses doctrines, etc. Mais c'est grave. Parce qu'ils ne lisent pas la parole, ils ne connaissent pas la parole. Le chrétien qui garde la parole, Dieu le gardera. Alléluia. Alors les choses ne se passent peut-être pas comme vous l'avez prévu. Ah, Naaman, lui, c'est un général. Donc il fallait, peut-être que vous vous êtes organisé, peut-être que vous êtes cadre, peut-être que vous êtes responsable et que vous avez l'habitude de dire, il faut que ça se passe comme ça. Non. Il faut que ça se passe comme Dieu veut. Et si Dieu me dit, te dit, plonge-toi cette fois, ça veut dire, c'est la perfection le chiffre 7, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Arrêtons de dire, j'ai pas le temps, je suis crevé, mais franchement, est-ce que vous croyez pas que quand on est fatigué justement, c'est pas le meilleur moment pour se plonger dans la présence de Dieu? Oui ou non? Vous voyez combien le diable il nous promène, hein? Réapprendre l'humilité. Réapprendre à entendre une parole du Seigneur. Une parole. Pas la peine d'en avoir 36. Une. Plonge-toi cette fois dans le Jourdain. Plonge-toi dans la mort du Seigneur. Plonge-toi dans son sacrifice. Plonge-toi tout à nouveau dans les évangiles. Voilà, c'est ça. Mes frères et sœurs, peut-être vous voulez des prophéties à tout le Seigneur. Parle-moi, Seigneur, j'en peux plus. Parle-moi, on entend des trucs. Oui, eh bien moi je vous dis que ce matin, Dieu il vous dit, plonge-toi cette fois, le temps qu'il faut, dans sa parole. Et cet homme, il a fait, et vous connaissez le résultat, apprendre ou réapprendre l'humilité. L'humilité, si nous ne sommes pas humbles, nous sommes orgueilleux, ça c'est la palisse. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et si vous souffrez, je ne sais pas si vous souffrez, parce que la vie, elle est dure, la vie. La vie, elle est parfois difficile. Je ne sais pas où vous en êtes. Dieu, il le sait. Et si vous avez prié, peut-être que vous avez dit, Seigneur, parle-nous ce matin, parle-moi ce matin. Ben oui, plonge-toi, réapprends l'humilité. C'est important, mes frères et sœurs. Vous connaissez l'histoire de Bartimée? Pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Marc au chapitre 10. Lui aussi, il a rencontré des problèmes. Des problèmes, c'est un aveugle. Vous connaissez cette affaire? Il était aveugle et il entend que dans sa ville, Jésus passe. Est-ce que c'était bien? Parce qu'on déconne. Jésus passe dans le village où il se trouvait, à l'occurrence, c'était Jéricho, qui nous rappelle toutes ces murailles qui sont là. Il entend, et qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Vous avez vu ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire, je ne la relis pas. Ouais. Il crie, et on le fait taire. Hein? On le cherche à le faire taire. Tais-toi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Tais-toi. De l'air de dire, mais arrête, tu vas pas déranger le Seigneur Jésus. Il est là dans sa splendeur et toi, pauvre type, tu vas le faire arrêter. T'as vu le type que t'es? Tu vas pas faire arrêter le Seigneur, non mais n'importe quoi. Et la question elle est là, est-ce que Jésus peut s'arrêter dans ma vie? Même si je suis un pauvre type. Ça vous arrive des fois de dire, je suis minable. Vous ne le dites pas? Vous n'aimez pas qu'on vous le dise. Vous n'aimeriez pas qu'on vous dise, t'es minable. Mais ça ne vous arrive pas des fois de vous regarder dans la glace et de vous dire, je suis bête. Ça vous est jamais arrivé? Plusieurs le reprenaient. Quand je vous dis que le diable, il fera tout pour que le Seigneur ne s'arrête pas dans notre vie, ce n'est pas un culte qui va peut-être suffire. Se plonger cette fois, ce n'est pas ce petit culte qui va vous donner la victoire. Ne rêvons pas. Si Dieu vous veut dans sa présence, laissez-moi vous dire qu'il va diriger les circonstances pour que vous vous retrouviez longtemps dans sa présence. Et ce n'est pas de la superstition, c'est de la qualité. C'est le contraire de la légèreté. Alors, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Eh oui. Qu'est-ce que c'est qui est en train de vous arrêter? Des fois, il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose pour arrêter. Pour arrêter une voiture, qu'est-ce qu'il faut? Un clou? Non? Ou un stop, d'accord. C'est vrai. Mais pour bloquer une voiture, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter une voiture? Un clou. Un petit trou dans une durite. Paf! Et la voiture, elle s'arrête. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même une voiture neuve, un clou, clac. À moins que vous vouliez faire comme beaucoup, rouler sur les jantes. On le voit des fois ça. Vous avez jamais vu ça? Moi j'ai vu plusieurs fois des femmes en plus. Peut-être qu'elles n'entendent pas. Mais c'est vrai. Non mais ne le prenez pas mal, peut-être qu'elles n'entendent pas. Mais c'est vrai, c'est souvent. J'en ai cloc, 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 cloc. Je regarde la voiture, je me dis la jante. Il va falloir que je... Bon,
Je ne dis pas ça pour... Je dis ça parce qu'on ne réalise pas toujours les conséquences. Les hommes seront peut-être plus négligents dans la cuisine. Mes frères et sœurs, il ne faut pas grand-chose pour nous faire taire. Les épreuves, vous savez, on en a des épreuves. Combien d'épreuves avez-vous eues en 10 ans? Allez. Bon, ce soir, vous vous assiérez, prendrez une feuille, ou un cahier plutôt, et vous vous écrirez toutes les fois que vous avez été éprouvé sur 10 ans. Vous pouvez le faire? C'est une autre épreuve, oui, je sais. Mais c'est vrai que franchement, s'il fallait écrire toutes les fois qu'on a pleuré, qu'on a vécu des choses, c'est... plusieurs le reprenaient. Mais lui, tout aveugle, il était aveugle. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont réaveuglés. Est-ce qu'un chrétien peut reperdre la vue spirituellement? Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. La Bible dit plusieurs fois, vous êtes aveugle. Si vous n'aimez pas, si vous êtes dans les ténèbres, si vous ne pardonnez pas. Et à la Odyssée, tu ne sais pas que tu es aveugle. Donc un chrétien qui a ouvert les yeux sur la beauté de la grâce peut, parce que la vie est comme ça, peut se retrouver, parce que le diable est un voleur, parce que le diable est un accusateur, etc., un menteur, il peut vous arriver de vous retrouver aveugle. Et il faut réapprendre à crier. À crier, ça ne veut pas dire qu'on hurle. Déjà, ils crient, ils s'imaginent que la foi, ça n'a rien à voir avec les décibels. Si on vous enseignait ça, croyez-moi, ce n'est pas biblique. Crier à Dieu, ça n'a rien à voir avec les décibels. Crier, ça veut dire que la foi sera toujours plus forte que le doute. La foi sera toujours plus forte que ce que les autres essaient de faire. Les autres, ils essaient de m'arrêter. On parlait d'un clou pour arrêter une voiture, mais la télévision, est-ce que ça peut arrêter quelqu'un? Oui. Moi, j'en suis sûr. Il y a des gens qui ont besoin de réouvrir les yeux et dire, mais quand je vois le temps que je passe devant ma télé, le temps que je passe devant Facebook, il faut que je réapprenne à crier à Dieu. Est-ce que vous croyez que si vous criez, Jésus s'arrêtera? Qui le croit vraiment? Qui croit ce matin que cette affaire, elle a été écrite pour que vous aussi, vous puissiez dire, je veux que tu t'arrêtes dans ma vie? Et Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté. Vous connaissez l'histoire. Hein? Vous allez me dire, mais c'est de l'évangélisation? Oui. Eh bien, peut-être qu'il faut réapprendre à crier à Dieu. Il criait plus fort. Vous voyez? Il criait plus fort. On essaie de m'empêcher de prier, mais moi, je vais prier. Dans ma maison, je vais prier parce que je veux, Seigneur, que tu m'ouvres les yeux tout à nouveau. J'ai envie de voir ce fleuve. J'ai envie de m'y plonger dedans. J'ai envie d'être une source de bénédiction pour les autres. Je l'ai déjà dit, mais est-ce que vous êtes une source de bénédiction pour les autres? Ou est-ce que vous êtes un problème pour les autres? Alors, si vous êtes un problème, prenez la victoire. Mais il y a des gens, c'est des fardeaux. Il y a des gens, ils sont lourds. Oui ou non? Il n'y a pas des gens qui sont pénibles? Alors, je ne dis pas ça pour les juger, mais reconnaissez qu'il y a des gens, je l'ai déjà dit, on les fuit. Donc ça vous prouve bien, on les évite. Ça m'est arrivé une fois, je me rappelle, il y avait un gars qui m'attendait au fond, tout le temps négatif, et je suis parti par là. Non, c'est pas bien. Et le soir, il m'appelle. Allô, monsieur Hugo, vous aviez pas vu que je vous attendais au fond du culte? Alors, j'allais pas mentir. Si, je vous ai vu. Vous êtes passé par la porte de devant, vous l'avez fait exprès? Oui. Est-ce qu'il fallait mentir?
Non.
J'ai dit non. J'ai dit, j'avais pas envie. J'ai dit, j'en ai assez, vous me fatiguez. Je lui ai dit, il faut dire la vérité. J'ai dit, vous me fatiguez. J'ai dit, venez boire le café, il est venu le lendemain, j'ai demandé pardon. J'ai dit, écoutez, mais je vous donne pardon, mais je ne vais pas vous mentir. Vous écoutez rien. Ça faisait 2-3 ans qu'il venait. Il n'écoutait rien. On l'a aidé financièrement, on l'a aidé, l'église l'a aidé, je vous le dis. Oui, je vous ai évité. Oui. Mais ça nous montre qu'il y a des gens qui n'écoutent rien. Il faut dire la vérité, on va pas jouer les hypocrites. Hein. Mais mes frères et sœurs, vous n'avez pas envie d'être une source de bénédiction? Je ne sais pas le temps qui nous reste. Je pense, moi, qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps sur la terre. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de réapprendre à crier? C'est écrit ou c'est pas écrit? Il fera justice à ses élus. À ses élus. Les mots que Jésus utilise sont tous à propos. À ses élus, c'est-à-dire aux véritables chrétiens. Il y a des chrétiens, ils prient, mais ils prient n'importe comment. Ils prient, Seigneur, fais-moi. Ils demandent vengeance en vérité. Ils ne demandent pas la justice. Ils demandent vengeance. Tu vois, celui-là, il m'a fait du mal. Seigneur, eh bien, fais-moi justice. Non, ils aimeraient presque que... Écoutez-moi, mes frères et sœurs, Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui. Et si nous, il faut réapprendre, réapprenons. Ça veut pas, c'est peut-être dans le silence, comme Anne qui à un moment donné disait, mais j'en peux plus. Elle a crié sans qu'aucun mot ne sorte de sa bouche. Et Dieu l'a bénie. Il a dit que quand elle est sortie du temple, son visage ne fut plus le même. Jésus s'est arrêté. Jésus s'arrêtera. Ne vous mettez pas en tête que Jésus fait du favoritisme. La Bible est catégorique. Si vous invoquez le Seigneur, il s'arrêtera. Vous entendez, mes frères et sœurs? Et pas, je ne comprends pas. Oui, mais peut-être que je dois réapprendre l'humilité. Qu'est-ce que tu as à me dire? Comment je dois réapprendre à prier? Seigneur, bénis mon boulot, bénis mon patron, bénis ma femme. Non! Seigneur, arrête-toi dans ma vie. J'ai besoin d'entendre une parole de toi. Une parole! On en a parlé mardi dernier lorsque David est découragé, déprimé, dans l'angoisse. Il consulte Dieu et Dieu lui dit juste un mot. Poursuis un mot. Dis un mot. C'est peut-être le mot que vous avez besoin d'entendre. Poursuis, tu atteindras. Jésus s'est arrêté et le Seigneur l'a béni. Oui, on peut retomber dans l'indifférence quand on est chrétien. L'indifférence parce qu'on est mal entouré. Il y a des gens qui sont mal entourés. Il y a des chrétiens qui vont demander conseil. La prophétie l'a dit tout à l'heure. Mais hier, je lisais dans Ésaïe et il est parlé de ceux qui écoutent les mauvais conseils. De ceux qui écoutent des conseils impies. Et faites attention à qui vous écoutez, faites attention. Réapprendre à prier. Troisième cas, la syrophénicienne, c'est dans Matthieu au chapitre 15. Ne le cherchez pas, c'est une femme pareille, une femme qui Jésus permet, qui se retrouve en Syrie. Il va jusque là-bas et il y a une femme qui l'aborde. Une femme qui est tourmentée dans la misère. Aie pitié de moi. Et cette femme, elle va en voir, elle va en entendre de toutes. Cette femme, elle représente les chrétiens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Cette femme, elle va crier à Dieu. Jésus va commencer à ne pas lui répondre. Il ne lui répondit pas un mot. Alors ça, c'est la meilleure. Vous venez de me dire qu'on prie, que Jésus va répondre, et là, vous venez de me dire l'inverse. Oui, parce qu'il y a des moments où Dieu nous éprouve. Ça vous est jamais arrivé que Dieu ne réponde pas? Le silence de Dieu? Il y a des centaines de textes dans la Bible qui nous permettent de comprendre comment Dieu peut nous éprouver en ne disant rien. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'agit pas. Vous demanderez à Joseph pendant les 13 ans qu'il a traversés et vous verrez que même si Dieu ne lui a pas parlé avant, Dieu agissait, oui ou non? Dieu agissait. Alors ne vous mettez pas en tête que parce que Dieu ne vous parle pas, il n'agit pas. Cette syrophénicienne, elle représente les chrétiens qui sont confrontés à ces problèmes douloureux. Dieu ne répond pas. Alors, la suite, on peut lire le verset 23. Matthieu 15, 23, il ne lui répondit pas un mot. C'est le Seigneur. Hein? Et ses disciples, alors les pasteurs en plus, pasteurs qui s'approchent, et dire avec instance, donc les pasteurs qui s'approchent de Jésus et qui disent, écoute, renvoie-la, car elle nous fatigue. Elle crie derrière nous. Est-ce que vous vous rendez compte ce qui se passe? Et en plus, là, il parle. Et il lui explique quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre, ou alors qu'elle comprend très bien. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans ce l'air de dire, moi, je ne suis pas là pour bénir les Arabes. C'est ça qu'il est en train de lui dire, oui ou non? Mais qu'est-ce que c'est ce travail? Toutes les paroles que l'on peut lire, qu'on ne comprend pas. Tous les comportements de chrétiens, de pasteurs, de diacres, est-ce que ça peut arriver qu'on ait des propos maladroits? Est-ce qu'ils ont été inspirés, les apôtres? Vous rendez compte? Ils vont voir Jésus, ils disent, écoute, fais la terre, elle nous fatigue. T'as un cri, renvoie-la. Vous vous rendez compte? Vous entrez ce matin pour la première fois dans l'église, et les anciens vous disent, va-t'en, c'est pas pour toi. Va-t'en. Vous direz, mais non, mais ils sont fous. Qu'est-ce que vous auriez fait, au fait? Tiens, vous arrivez à l'église pour la première fois ou la troisième fois, et les anciens vous disent, c'est pas pour vous. C'est pour les membres. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je serais reparti, je pense. Cette femme, elle persévère. Et laissez-moi vous dire que s'il y a une chose qu'il faut réapprendre, c'est la persévérance. Et cette femme, elle ne se laisse pas démonter. Sa fille est tourmentée par le démon. Elle ne veut pas lâcher. Elle a compris une chose. Et ça, c'est la chose qu'il faudrait que vous disiez ce matin, que vous lui disiez. Est-ce que vous croyez que Jésus a le pouvoir de délivrer ? Cette femme, elle avait compris, elle avait entendu, quand vous lisez bien, elle avait entendu, parce que quand les gens venaient, il y en a qui venaient de Syrie, elle était de Syrie. Et cette femme, elle avait entendu dire, mais Jésus, il délivre les gens qui sont tourmentés. Donc elle se relâche pas, elle dit pas, ben, si c'est ça le pasteur, si c'est ça les pasteurs, si c'est ça les anciens, si c'est ça le chrétien, si c'est ça, ben Jésus, j'y comprends rien. Il m'a dit un truc, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Mais regardez. Regardez qu'est-ce qu'elle fait. Elle s'énerve, elle part en claquant la porte. Elle vient. Qu'est-ce qu'elle fait ? Regardez avec moi. Elle ne vient pas prier. Là, elle vient adorer. À la place de s'énerver, elle se transforme en adoratrice. Elle vient se prosterner devant lui. Je ne sais pas si vous rendez compte. C'est-à-dire qu'elle était à genoux devant lui. Vous avez vu les réactions ? Quand la Bible dit de surmonter le mal par le bien, elle aurait pu l'écrire ça. Elle vient se prosterner, Seigneur, secours-moi. C'était sa fille qui était tourmentée, mais ça ne fait rien. Elle s'identifiait à tellement elle en souffrait. En plus, Jésus recommence. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est une des seules paroles dans la Bible où ça frise, je dis bien ça frise, l'injure. Alors cette femme aurait pu dire, mais je me suis trompé, c'est pas lui. Non, c'est pas le vrai Jésus. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Oui, 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 oui. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes. Elle a compris. Mais mes frères et sœurs, c'est sûr que c'est bien que je vous dise, réapprenez la persévérance. Vous voyez, réapprendre l'humilité, réapprendre à prier, à crier, réapprendre la persévérance. Mais vous ne pourrez pas persévérer si vous n'avez pas goûté que le Seigneur est bon. Vous ne pourrez pas persévérer si vous n'avez pas compris qu'il peut tout. Il peut tout, le Seigneur. Vous entendez ? Vous le croyez ? Voilà. Mais réapprenons ces choses. Et c'est la seule femme à qui Jésus a dit dans la Bible, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, sa fille, je ne sais pas où elle était, c'était elle était à 10 km ou 30, ou je ne sais rien, ou 2, qu'importe. À l'heure même, sa fille qui est tourmentée par le démon, nous on dit, mais il faut des séances de délivrance. Mes frères et sœurs, il faut une foi vivante. Il est le Tout-Puissant. Et quand je vous dis qu'il faut réapprendre l'humilité, réapprendre à crier, réapprendre à persévérer, mes frères et sœurs, peut-être que vous vous découragez parce que votre fille, eh bien, elle empire, parce que votre mari, il empire, parce que l'église, elle empire, parce que le pasteur, il empire. Ah, moi, j'en ai marre, j'ai baissé les bras. Non, mes frères et sœurs, je vais réapprendre à persévérer. Jésus est un Dieu qui délivre. Rappelez-vous-en. Il délivre de tous les problèmes. Vous le croyez, mes frères et sœurs ? Il délivre, même si les pasteurs ne vont pas bien, croyez-moi. Hier soir, j'avais un quart d'heure de libre, j'étais furieux. J'étais furieux. Je me suis dit, tu vas aller regarder des prédicateurs parce que j'avais envie de me faire du bien pour terminer la soirée, j'étais content, tout ça. J'ai écouté des prédicateurs, vraiment, ça fait peur. Et c'est vrai que c'est difficile. On est dans des temps difficiles. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur, il ne change pas. Il est toujours le même. Et si cette histoire, elle est là dans la Bible, c'est pour vous montrer que même si c'est votre fille, je ne sais rien, est tourmentée, le Seigneur, il le délivrera. Apprenons, réapprenons à persévérer. Le dernier exemple, c'est Jaïrus, dans Marc chapitre 5, verset 22. Vous savez, ce religieux, ce chef de la synagogue, sa fille est malade. Elle est tellement malade qu'elle est sur le point de mourir. Alors, il va à sa rencontre. Là aussi, ça ne se passe pas comme il voulait. Au moment où le Seigneur partait chez sa fille, paf, il y a une femme qui arrive. Et là, il lui fait perdre du temps. Et le temps passe. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on vient ? Il y a des gens qui disent, écoute, ce n'est pas la peine que Jésus vienne. Ce n'est pas la peine. Ta fille, elle est morte. Quelle histoire. Ta fille, elle est morte. Alors, je ne sais pas, les situations autour de vous, peut-être que vous dites, mais ben oui, c'est vrai. Ma fille, elle est morte. Pas physiquement. Ma fille à moi, mon fils, ma femme, mon mari, mais oui, ils sont morts, ils sont loin de Dieu. Est-ce que ça peut arriver, ça, que quelqu'un de votre famille soit loin de Dieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui est loin de Dieu ? Moi, dans la mienne, ils sont tous loin de Dieu. Très loin. À part deux ou trois. Et qu'est-ce que Jésus dit à cet homme ? Vous vous rappelez ce qu'il lui dit ? Ces mots. Il lui dit,
ne crains pas, crois seulement. Vous savez, quand je sais qu'au travers d'un mot, Dieu peut parler. Vous savez, quand je priais cette semaine, je demandais au Seigneur quelques mots pour nous, pour nous. Et je sais que quelqu'un devrait saisir cette parole, vraiment la saisir, comme une parole de Dieu. Ne crains pas, crois seulement. La crainte, quand je vous dis que le diable c'est un voleur, oui, c'est un voleur. Et s'il peut mettre la crainte dans notre cœur, avoir peur, il y a des gens, ils ont peur de tout, ils ont peur du lendemain, ils ont peur de tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, vous parlez avec eux, ils respirent la peur. Des chrétiens, hein? Ils ont peur du lendemain, ils ont peur des gens, ils soupçonnent les uns, ils soupçonnent les autres, ils ont peur du passé, ils ont peur du présent, ils ont peur de l'avenir. Ils ont peur. Je pourrais dire que le diable, là, il a mis ses points, croyez-moi. Moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, même si votre fille est morte, spirituellement, même si votre fils est mort, même si votre mari est loin de Dieu, peut-être il y a quelqu'un qui dit, mais moi, je suis malheureuse, mon mari est loin de Dieu, ne craignez pas. Vous entendez? C'est pas moi qui vous le dis. C'est le Seigneur. Ils ont chanté. Je rejette la légèreté. J'aimerais que certains le fassent. Pour que vous arrêtiez de vous détruire la vie. C'est ça, rejeter la légèreté. Seigneur, je demandais que tu me parles. Qu'est-ce que tu me dis? Ne crains pas. Crois seulement. Elle est morte. Quand ils sont arrivés à la maison, ils se sont moqués de Jésus. Bon, ça ne change pas beaucoup, vous savez. Vous allez vous moquer des promesses du Seigneur? Ou vous allez dire, je crois Seigneur que tu peux bénir ma fille, que tu peux bénir mon gendre? Peut-être que vous avez un problème avec votre gendre, avec la belle-mère, des fois on rit avec ça. Mais est-ce que Dieu peut changer le cœur d'une belle-mère? Est-ce que Dieu peut changer le... Il y a des gens qui sont en vrac à cause de ça, parce qu'ils se sont en conflit avec la belle-mère. Aimez-la. C'est grâce à elle que vous avez une fille, une femme. Oui ou non? Réapprendre à ne plus craindre. Le fleuve, il existe. Dans le ciel, il y aura un fleuve. Ce fleuve, il est là, mes frères et sœurs. Et il y a des choses qu'il faut réapprendre. Mais vraiment, moi, je suis peiné de voir tant de... Vous allez me dire, mais monsieur Gros, c'est prophétisé. C'est vrai. C'est vrai que lorsque Jésus viendra, toutes les vierges seront... assoupi, endormi. C'est écrit. Hier, je lisais des textes dans Ésaïe. Pareil, on voit des prophéties, l'assoupissement. C'est clair, c'est grave. Mais même si l'évangélisation ne se fait pas comme elle devrait se faire, vous êtes d'accord? Est-ce que l'évangélisation se fait comme elle devrait? Non. Mais au moins, on pourrait dire, bon, je suis peut-être pas au top dans le service, mais au moins, je peux personnellement réapprendre. Je veux réapprendre. Mais mes frères et sœurs, c'est sérieux. Réapprendre l'humilité, si Dieu vous dit ce matin, ne crains pas, crois seulement, moi je ne sais pas, mettez-le, écrivez-le, mettez-le en fond d'écran sur votre ordinateur, mais faites-le, ne crains pas, crois seulement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il aurait pu dire, non, mais c'est bon, t'inquiète. Est-ce qu'il aurait pu fuir? Est-ce qu'il aurait pu partir? Oui, il a écouté. Ils ont été à la maison. Et le Seigneur, il a pris la main de cette petite. Est-ce que vous croyez que Dieu peut poser sa main sur votre fille, sur votre mari, si vous le lui demandez? Seigneur, sauve mon mari, mais croyez-le, ne craignez pas, ne vivez pas dans la crainte. Il n'y a rien de pire pour détruire la foi. Ne craignez pas. Vous vous rendez compte de cette petite, quelle bénédiction. Elle est morte, ma fille. Monsieur Gaumet, mon mari, si vous le connaissiez, il est mort, mon mari. Il fait le beau, tout ça, mais il est mort. Il va à l'église, mais il est mort, mon mari. Est-ce que ça peut arriver? Ben oui. Ne nous affligeons pas outre mesure. C'est triste. Mon église, mais monsieur Gros, l'église, elle est morte. Ah ouais? Mais moi, je vous dis que Dieu, il est vivant. Il est le même. Et ces exemples sont là. C'est sérieux, mes frères et sœurs. C'est sérieux. Si Dieu nous a parlé de Naaman ce matin, on peut réapprendre l'humilité. Si le Seigneur nous parle de Bartimée, on peut redevenir aveugle, mais on peut retrouver la vue. Eh bien, moi, je n'écouterai pas les gens qui me donnent de mauvais conseils, les gens qui me disent, ne va plus à l'église, ça ne sert à rien. Non, j'irai. parce que Jésus a dit qu'il bâtirait l'église, et ça c'est l'affaire du Seigneur. Eh bien, j'irai. Il y a des gens qui disent, ben, on ne va plus à l'église, ça ne sert à rien. Mais moi, je bénis Dieu pour les nouveaux qui sont là ce matin, qui peuvent entendre que Jésus est ressuscité. On va prendre le pain et le vin. Quelle joie, quelle grâce de pouvoir prendre le pain, de dire, oui, je suis d'accord avec tout ce que Jésus a fait au calvaire. C'est une façon de dire, quand on prend le pain, c'est comme ça. Mais je suis d'accord, j'ai signé. Oui, j'ai signé. Il est mort pour moi. Son sang a été versé. Je le confesse devant Dieu. Dieu le voit tout ça. Et heureusement qu'il y a des églises. Parce que si tous les gens avaient obéi au diable, il n'y aurait aucune église. Et vous faites partie des gens qui ont décidé, oui, Jésus bâtit l'église, eh bien moi je serai avec lui. Alléluia. Et je persévère. Eh bien je vais réapprendre. J'ai perdu le sens de la persévérance. Eh bien je vais le réapprendre. On ne va pas se traumatiser pendant 3 mois. Je vais réapprendre à persévérer. Je vais réapprendre à crier à Dieu. Je vais réapprendre à m'humilier. Je vais réapprendre à ne plus avoir de crainte. Bannissez la crainte. Bannissez-la. On va prendre le pain et le vin. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, oui, je prends le pain et le vin parce que je suis d'accord avec l'œuvre de Jésus. Vous savez, quand vous passerez devant Dieu, le Seigneur vous rappellera ces choses. Le Seigneur aura vu, et vous aussi, vous pourrez lui dire, Seigneur, tu as vu, moi je prenais le pain et le vin, j'étais sérieux, c'était une joie pour moi de prendre le vin. C'est une joie, mon frère et ma sœur, de dire, oui, je crois ce qu'il a fait. Je crois en son sacrifice. Je crois à son amour. Je crois à toutes ses paroles. Je crois, Seigneur, que tu as laissé ces choses écrites, eh bien, c'est pour me bénir. Je crois que tu ne vas pas me juger. Le Seigneur, il ne vous juge pas, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il vous enseigne à réapprendre. Ce matin, je prends la victoire. Je vais réapprendre. Je vais, oui, comme les frères et sœurs l'ont chanté, je vais rejeter la légèreté. Merci la chorale pour ce cantique. Vraiment, merci du fond du cœur. Parce que c'est vraiment le cantique qui correspondait. Je rejette la légèreté. Est-ce que, mes frères et sœurs, vous voulez bien vous lever sous le regard de Dieu? Avec fierté. Ben oui. Oui. Vous êtes fiers d'appartenir au Seigneur? Vous êtes heureux de lui appartenir? Quand vous avez pris le baptême, c'est comme une signature, ça. Vous avez signé. Vous avez dit, Seigneur, je crois ce que tu as fait à la croix. Je le sais. Tu m'as lavé. Tu m'as racheté. Oui, je suis d'accord avec ce pain. Je vais le prendre devant toi, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, tu l'as dit que tu n'étais pas venu pour juger le monde. Tu es venu pour le sauver. Ce matin, tu nous rappelles que ce que le diable nous a volé, tu le redonnes. Alléluia, merci Seigneur. Ce que nous avons perdu, tu nous le réaccordes. Oui, apprends-nous Seigneur, réapprends-nous réellement à bannir la crainte. Réapprends-nous Seigneur à persévérer. Réapprends-nous à prier avec foi. Réapprends-nous l'humilité. Oui, Seigneur, merci pour le calvaire. Jamais, jamais, nous ne te dirons jamais assez merci pour ce que tu as fait à Golgotha. Que ton nom soit béni, Seigneur.